90.3.
Il est 14h.
Contre-écran, votre émission de débat cinéma, c'est sur Côte Sud FM.
Bonjour, bienvenue sur les antennes de Côte Sud FM, c'est votre émission Contre-écran, votre émission cinéma débat. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là. Je suis en train de visiter le château de la Buzine et les studios de la Victorine. Bah, vous aurez compris si vous connaissez les références. Enfin, je ne suis pas là, mais ne vous inquiétez pas, les forces vives de Côte Sud FM sont là pour prendre le dessus. Alors, je me tais et place à Sandrine qui vous présentera cette émission. Merci Sandrine. Bonne écoute de votre émission Contre-écran.
Merci Eric. Eric qui en ce moment évolue dans des contrées qui sentent l'anis, la farigoulette et l'OM. C'est donc avec plaisir et humilité que je le remplace aujourd'hui. Je suis un peu la Rebecca Manzoni de Côte-Sud FM. Bon, pas de réaction désagréable s'il vous plaît. Autour de cette table et par ordre alphabétique, Bernard qui est derrière les boutons, Franck, Hervé, Louise, Maïder, Marc et Pierre, bonjour à tous.
Bonjour.
Rebecca.
Ce joli bonjour, c'est parfait. Bienvenue à tous nos auditeurs, c'est parti pour une heure de cinéma. Action !
Côte FM 90.3.
Yeah!
l'équipe de Contre-écran sur Côte Sud FM.
Et nous commençons par le box-office. En premier, Dune, deuxième partie, avec 471 594 entrées. Une vie avec 181 911 entrées. Heureux gagnant, 148 708 entrées. Immaculée, 129 796 entrées. Karaoké, 116 787 entrées. Hors saison, 114 000. Alors, karaoké, je reprends, 116 784 entrées. Hors saison, 114 495 entrées. Il reste encore demain, 113 550 entrées. Boléro, 85 623 entrées. Maison de retraite 2, 84 224 entrées. Et on finit en dixième position avec Cocorico, avec 80 904 entrées. La prochaine fois, je ne mettrai pas Louise à côté de moi, qui surveille tout ce que je dis.
Et je vois que tu te trompes.
Alors, je sais que Dune, Franck a vu Dune. Alors, Dune, c'est un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya et Rebecca Ferguson. Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Franck, qu'est-ce que tu as pensé de Dune ?
J'en ai déjà parlé la semaine dernière.
D'accord. Enfin, bah vas-y, vite fait.
Bah rien, c'est juste c'est un film en deux parties où le héros, dans la première partie, rêve pendant trois heures de ce qu'il va se passer dans la partie 2. Et il y a beaucoup de sable.
D'accord. Voilà. Quelqu'un d'autre a vu Dune et a un autre avis ? Oui, Hervé ?
Je suis moins dur que Franck, même si c'est vrai que c'est pas une extraordinaire réalisation. Le film dépasse pas son sujet, mais il a une dimension épique. Denis Villeneuve et les moyens de Warner fait qu'on a quand même de belles images, qu'on a une montée en puissance à la fois du personnage et de la narration. Je trouve qu'on passe plutôt un bon moment, que ça peut annoncer de bonnes choses pour le 3. Après, voilà, c'est pas, ça ne va pas plus loin que cette histoire-là et ça ne me semble pas aller à la hauteur du roman.
D'accord, donc il y a un numéro 3 qui doit arriver.
Vu le succès, Denis Villeneuve y tenait, qui correspondra au deuxième volume de Dune, donc il semblerait qu'on s'en approche. Oui.
Eh bien voilà, ça c'est une information importante.
Ah oui, je suis dans les petits papiers de Warner, bien évidemment.
En deuxième position du box-office, il y avait Une vie de James House avec Helena Baumgartner, c'est comme ça qu'on dit ?
Bonham Carter,
d'accord, pardon.
Carter.
Ah ben j'ai pas le.
Ah, c'est pas déchiffré des lettres. Hein.
Alors je reprends. Alors en deuxième position du box-office, il y avait Une vie de James House avec Helena
Bonham Carter.
Merci. Anthony Hopkins et Johnny Flynn. 1938, alors que Prague est sur le point de tomber aux mains des nazis, un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Voilà, c'est Maïder, je pense, qui va nous parler de ce film.
Oui, on en avait déjà parlé le mois dernier. Alors, je suis allée le voir, hein, toujours un petit peu en décalé. Donc, effectivement, un film j'ai trouvé assez réussi. Anthony Hopkins, toujours exceptionnel, je trouve. Très, 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 très bon acteur. Des moments très émouvants. Bon, parfois, on verse un peu dans le larmoyant. Mais globalement, effectivement, un très bon film.
Alors moi aussi, je l'ai vu, je trouve que c'était un très bon film, on ne s'ennuie pas. C'est une histoire vraie, hein. Une histoire vraie. On ne s'ennuie pas, effectivement, Anthony Hopkins est parfait, tous les comédiens sont très bien. Après, c'est assez classique hein, comme film. Quelqu'un d'autre l'a vu ? Oui, Hervé, mais vas-y, n'hésite pas.
Oui, mais le même avis, donc je ne vais pas... Voilà. Non, voilà, c'est très beau, l'acteur porte vraiment le rôle. Oui. Et de temps en temps, ça cherche la larmichette, donc ça se sent un peu
c'est
des
ça.
Fois.
Voilà.
Il y avait en 7e position du box-office, il reste encore demain, et je sais. Alors, c'est de Paola Cortellesi, avec Paola Cortellesi elle-même, et Valerio Mantandrea, pardon pour la prononciation. Mariée à Ivano, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l'espoir né de la libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s'achever. Pierre, tu as vu ce film ?
Oui, j'ai vu ce film. Je crois qu'on en a déjà parlé. Moi, je ne l'avais pas vu lors de la dernière émission. Et je trouve que c'est un film très délicat. Ça nous permet d'être solidaire de l'héroïne, actrice et réalisatrice tout de suite. Et on pénètre dans une tranche de vie familiale avec une facilité et une délicatesse extraordinaire. Le noir et blanc aide beaucoup. Et puis je trouve qu'il y a une façon assez détachée d'aborder une question difficile, à savoir les femmes battues. Et la dernière scène réalise un retournement de situation auquel on ne s'attend pas du tout.
On ne le dira pas,
si ce n'est, allez voir ce film.
Très bien.
Je trouve que c'est une belle réalisation et des idées originales.
Franck, tu as vu ce film également ?
Oui, également.
Et tu peux nous en parler ?
Non, mais je rajouterai pas grand-chose sur la part, puisque Pierre en a très bien parlé, effectivement. Le twist final est effectivement très surprenant.
Okay.
Et puis, c'est une première réalisation.
C'est un film italien, c'est ça ?
Ouais. Enfin, d'après Paola Cortellesi. Visiblement, moi, je ne la connaissais pas. C'est une très grande humoriste en Italie.
C'est un premier film, non ?
C'est son premier film.
Oui, c'est ça qui est.
C'est là-bas, en Italie.
Près de 5 millions d'entrées en Italie.
Il y a des trucs qui pêchent dans le scénario. Il y a des trucs qui m'ont...
Après, c'est une comédie.
Non, mais il y a vraiment des...
Non, il y a vraiment des trucs qui pêchent. Hervé, tu l'as vu ?
Oui. Enfin, il y a eu un gros engouement sur le film, une belle communication, et en effet, le noir et blanc, l'actrice, je n'ai pas grand-chose à redire. Je suis mal à l'aise sur une partie de la représentation de la violence qui est chorégraphiée. Je bloque là-dessus.
C'est ça, oui. J'en ai entendu parler.
Je bloque là-dessus.
Que ça pouvait être un peu gênant, peut-être.
Voilà, mais peut-être que je le vois mal. Ouais.
Ouais, parce que...
Effectivement, ça pose question, chorégraphier la violence... sous forme d'une danse, en plus,
j'ai l'esprit mal tourné, mais en argot, en argot, je crois que
on dit tu vas te prendre une danse.
Tu vas te prendre une danse, voilà.
Ah,
et
oui.
Et j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, elle va jusqu'au bout de cette expression-là. Et j'ai trouvé que c'était quand même très très original. Ça me fait penser au versant féminin de Roberto Benigni.
Ouais.
Hein, avec La vie est belle. C'est la même façon de traiter de façon humoristique des sujets qui sont très graves et qui font avancer la réflexion quand on voit ces films-là. Ouais.
Oui, mais c'est vrai qu'on peut se dire que de personnifier la violence avec de la danse, c'est aussi peut-être l'embellir. Donc du coup, est-ce que c'est un peu peut-être ce que tu...
Je pense que ça va dépendre des sensibilités.
Ouais,
justement,
ouais.
si je vois théoriquement ce qu'elle veut raconter,
oui.
Personnellement, cette manière de le faire ne me convient pas.
D'accord.
De sortir du film. Et en gros, si c'est pas clair, qu'il y a un doute peut se poser, tout le monde peut s'y immiscer. Donc voilà, ça m'embête un peu. Mais c'est vraiment une version personnelle, une vision personnelle.
Oui, mais
je discute avec les spectateurs, je vois qu'ils ont plutôt été sensibles à cela. Donc
ouais.
Tant mieux, alors. C'est moi qui l'ai mal vu.
Ouais. Mais la question peut se poser. On a fini avec les films qui faisaient partie du box-office. On va continuer avec La théorie du boxeur de Nathael Coste. C'est un documentaire. Vague de chaleur, sécheresse, gel tardif ou ravageur. Le climat se dérègle et notre agriculture doit bifurquer. Oui, mais vers où ? Pierre, tu as vu La théorie du boxeur ?
Oui, je l'ai vu hier soir à Tyros. Il y avait un débat ensuite qui était... tout à fait intéressant. Alors, la théorie du boxeur, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de préciser les difficultés qui découlent de l'accroissement de la chaleur et du manque d'eau. Et en fait, la théorie du boxeur, c'est les arbres en particulier et la végétation de façon générale encaissent les coups successifs de canicule, de manque d'eau et qui font qu'ils n'arrivent pas à prendre le dessus, et 30% de la forêt française est en voie de dépérissement avancé. Et donc la théorie
même si on s'en rend pas compte, forcément.
Même si on s'en rend pas compte. Et la théorie du boxeur, c'est de dire, changeons notre façon d'encaisser les coups et travaillons notre jeu de jambes. J'ai trouvé que ça, c'était joli comme image. Un documentaire de la veine de demain, donc centré sur les expériences qui sont menées depuis 20 ou 30 ans sur une vallée de la Drôme, la vallée du Diois, où effectivement il y a bon nombre de jeunes agriculteurs qui reprennent les exploitations et qui développent des façons de une agriculture censée faire face au dérèglement climatique. Voilà. Un documentaire de bonne facture. Voilà. On passe une bonne soirée qui nous sensibilise, encore une fois, si besoin était, aux difficultés qu'on rencontre actuellement. Mais on y est, là, vraiment.
On y est dedans. Ouais. Ouais. Mais même si, effectivement, les arbres, on ne voit pas forcément pour l'instant qu'ils sont en train de décliner. Il y a des feuilles vertes, tout va bien. Enfin, on a l'impression que tout va bien. Mais voilà. Quelqu'un d'autre a vu la théorie du boxeur ? Non ? On continue avec Pas de vagues de Teddy Lucie Modeste avec François Civil. Ah oui. Non, c'est vrai, je l'aime bien, j'avoue.
Moi aussi.
Shaïn Boumediene.
Un prof comme ça, c'est pas mal. Ouais.
Et Bakary Kébé. Alors, Julien est professeur au collège, jeune et volontaire. Il essaie de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves, dont la timide Leslie. Hervé, tu as vu ce film ?
Oui, on l'avait proposé en avant-première surprise. Je trouvais intéressant le fait que c'est le premier film donc, d'un réalisateur et il s'agit de son histoire personnelle quelques années auparavant. Donc il a d'une certaine manière exorcisé ce qui a été une rupture complète avec l'éducation et l'éducation nationale, puisque c'est un professeur qui n'a pas du tout été soutenu par sa hiérarchie, par l'académie, face à des difficultés dans sa classe. Dans le film, ce que je trouve intéressant, au-delà du jeu de François Civil qui est impeccable, c'est les ambiguïtés qu'il y a. Les ambiguïtés de l'enseignant, les ambiguïtés des élèves, les ambiguïtés des collègues, qui parfois le soutiennent et parfois se montrent un peu durs aussi, se montrent un peu critiques. C'est pas le gentil professeur et les sales gosses, c'est pas les parfaits élèves et le professeur qui a la ramasse. Je trouve cette ambiguïté intéressante et le réalisateur la traite de manière, il me semble, assez honnête. Et c'est justement intéressant de voir l'enfermement dans le mensonge qui peut aussi arriver pour certains individus. Donc voilà, un film intéressant, au-delà, même si c'est une histoire personnelle, c'est une histoire sur laquelle beaucoup d'enseignants peuvent se retrouver, malheureusement.
Bien sûr, ouais.
Et le titre, c'était pas le titre original, Pas de vagues, ça a été choisi plus tard, suite justement à ce fameux hashtag où des enseignants ou des membres du milieu scolaire ont exprimé leurs difficultés qui n'étaient généralement pas soutenues.
Ouais. Et c'est souvent, effectivement, dans le monde de l'éducation nationale, quand il y a un petit souci, souvent on demande quand même de ne pas faire de vagues, hein, parce que voilà,
La première peur de pas forcément d'une équipe éducative, mais d'un peu la hiérarchie dans un établissement scolaire, c'est les parents. C'est la peur que les parents, qu'une mauvaise information, et généralement, non, mais c'est pas grave, laissez passer, sauf que laissez passer des enseignants qui sont en difficulté pour plein de raisons au bout d'un moment.
C'est très, très d'actualité quand même, ce film.
Mais on le voit dans les sorties cinéma, peut-être qu'on parlera de la salle des profs.
Oui,
il y a Amal avec Lubna Azaba là, qui sort bientôt. Dans un autre registre, il y a le film autour de Maria Montessori, l'éducation, Bis Repetita dans un autre registre. Donc on a plusieurs films comme ça. Donc voilà, des réalisateurs et des réalisatrices s'en emparent.
Mais c'est vraiment un gros sujet d'actualité, de toute façon. Hein. Depuis Samuel Paty, ça ne fait que empirer et que d'être de plus en plus dans l'actualité. Quelqu'un d'autre a vu Pas de vagues ? Franck, tu l'as pas vu, non ?
Non.
D'accord. Personne. Bon, alors on va se fier à l'avis d'Hervé. Nous allons passer à la salle des profs, mais avant, on va écouter une petite pause musicale.
Contre-écran, votre émission de débat cinéma, c'est sur Côte Sud FM. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So tonight, but don't you let go of me.
Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So
heures sur 24, la radio Sud-Aquitaine, Côte Sud FM 90.3.
Et nous revoilà pour notre émission Contre Écran. Nous allons parler de la salle des profs après avoir parlé de Pas de vague. On reste dans le sujet de l'éducation nationale. C'est un film de Liker Satak. C'est comme ça qu'on dit ? Non, pas du tout. Erion, on le dit comment ? Il sait pas. Bon. Donc, bon, on va dire que c'est comme ça. Avec Léonie Benesch, Michael Klammer et Raphaël Stachowiak. Alors, les noms, c'est approximatif. Hein. Voilà. Si ces gens nous écoutent, je suis désolée.
Pardon.
Et pardon.
Pardon.
Voilà, pardon.
Pardon.
Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes. Qui a vu la salle des profs ?
J'ai vu.
Franck, allez, vas-y, à toi.
C'est pour faire écho à Pas de vague que j'ai pas vu, mais autre film sur l'éducation nationale. Là, cette fois-ci, l'éducation allemande, qui a une autre forme d'approche de l'éducation. Mm-hmm. C'est un film quand même assez. C'est un thriller, hein, parce que c'est c'est une histoire de vol et d'enquête au départ. C'est assez glaçant quand même sur il y a une espèce de racisme larvé dans ce film qui est totalement mais glaçant.
C'est-à-dire
que ça soit les élèves entre eux ou les professeurs envers les élèves, il y a eu quand même un regard de l'autre qui est très tout le temps dans la suspicion,
le dédain un peu peut-être,
non la suspicion, c'est pas le dédain, c'est vraiment la suspicion,
ouais,
c'est
de l'autre,
la peur de l'autre,
ouais. C'est très bien fait. Je sais pas si c'est un premier film ou pas, l'actrice est très très bien, que dire d'autre,
donc on le conseille,
oui on le conseille, ouais. J'ai Enfin, c'est assez glaçant. Ça dépeint. Au début, ça veut dépeindre une forme d'éducation qui a rien à voir avec la France, mm-hmm. où les profs sont justement bienveillants avec les élèves, tout se passe bien, les élèves sont bienveillants avec les profs, et ça se retourne, ça
Hervé, ça sent mauvais quand même. Tu as le même avis.
Je te rejoins sur le côté glaçant. Je trouve ça bien de parler de la salle des profs, de parler de l'enseignement avec un côté film de genre, un peu thriller en effet. Et le parallèle, je vais faire attention quand même, mais je le trouve intéressant dans la continuité de zone d'intérêt.
Oui.
Parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ne voit pas. Et la fin du film sur la question de l'autre, la fin du film, pour moi, c'est le bruit des bottes, hein, c'est mm-hmm. ça. Et je crois qu'en passant par quelque chose de très quotidien, de très important d'une génération à l'autre, les élèves, l'apprentissage, le futur, par rapport à zone d'intérêt qui était le passé, je trouve que ça porte un discours. Alors peut-être que je surinterprète, mais en entendant Franck, je suis pas le seul à avoir ce côté très glaçant mm-hmm. justement et pas forcément très joyeux en regardant l'avenir.
Et toi aussi, t'as vu une
correspondance
avec une zone d'intérêt ?
Oui, effectivement. Ouais, on peut faire le rapprochement. Ouais.
Alors, nous avons une jeune collégienne avec nous. Alors, j'aimerais bien lui demander un petit peu ce qu'elle, même si elle n'a pas vu les films.
Non, j'ai pas vu.
Ce que tu penses de ce que Franck et Hervé ont dit ? Est-ce que tu vois les choses comme ça, toi, de l'intérieur ?
Oh, c'est un peu vrai, oui, que par rapport au regard de l'autre, on a du mal entre nous, par exemple, à se regarder dans les yeux pour se parler ou des choses comme ça, on a du mal. Et mais après, les profs, c'est vrai, ils sont assez compréhensifs, il y en a d'autres, ils sont un peu tyranniques. Mais sinon, ça va.
Bon, alors, message aux profs tyranniques, on se calme.
Voilà.
Mais est-ce que tu... parce qu'on parle aussi beaucoup de harcèlement, tout ça, entre élèves. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à se calmer ? Est-ce qu'on en parle beaucoup ? Est-ce que...
ils en parlent assez souvent. Oui, ils font des petites conférences, là, des réunions, là, pour nous dire qu'il faut arrêter, même si la plupart n'en font pas. Enfin, j'ai pas l'impression.
Ouais.
Mais après,
toi, t'as pas subi de harcèlement particulier ou
Il y a eu quelques petites histoires, mais ouais.
Ça va.
Non, c'est passé.
Bon, d'accord. Bon, il faut tous qu'on soit gentils, d'accord ?
Oui, voilà. C'est bien d'être gentil.
En parlant de gentils, on va parler d'un film avec Marc. Non, c'était une boutade, Marc. Okay. Tu n'es pas gentil et le film non plus.
Voilà, tout à fait.
Nous allons parler de Godzilla Kong, le nouvel empire, de Adam Wingard, c'est comme ça qu'on
Wingard,
dit
ouais.
Wingard, avec Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, comme ça on dit ?
Certainement.
Voilà. et Kaylee Otto. Voilà, et alors comme résumé, j'ai suite de Godzilla versus Kong.
c'est très résumé.
Et bien, c'est difficile de faire meilleur résumé.
Donc tu vas pouvoir nous en parler.
J'ai envie de dire, c'est tout à fait ça. Non, effectivement, dans le dernier épisode des aventures de Kong et Godzilla, donc ils se rencontrent. Évidemment, va y avoir bagarre, sinon c'est pas drôle. Et donc on quitte le dernier film, donc Godzilla versus Kong, sur un espèce de match nul. On a fini par faire équipe et on se quitte comme ça. On se respecte et on se quitte comme ça. On arrive dans ce nouveau film effectivement et chacun est un petit peu dans son royaume à lui et on va découvrir qu'en fait dans la terre creuse, dans le royaume de Kong, donc il y a encore un autre niveau qu'on ne connaissait pas. Donc si vous aimez les films où on change de scène en vous mettant un petit encart en bas avec marqué on est à tel endroit, d'accord, pour qu'on essaye de suivre un petit peu ou comment ça se passe, parce que là vous allez bouger beaucoup beaucoup et ces petits cartons et ces petites inscriptions en bas de l'écran, vous allez les voir beaucoup beaucoup, donc même dans la terre creuse, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un endroit qu'on ne connaît pas par définition, hein, et donc même à cet endroit-là, on arrive à nous perdre un petit peu, donc on nous met des petits encarts en bas quand même, histoire de nous situer un petit peu. Donc voilà. Sorti de ça, donc il va y avoir une grande menace et Kong et Godzilla vont devoir faire équipe parce que tout seul ils vont pas y arriver, et donc voilà, ils font équipe. Alors clairement, moi j'ai plutôt apprécié mon écoute du film, hein, mais voilà, faut débrancher votre cerveau, essayez pas de chercher une quelconque logique, hein, quelconque truc, non, c'est pas possible, non, effectivement, le personnage
Enfin voilà, il arrive, il traverse la moitié de la journée, il traverse la jungle, et puis d'un coup il dit ah bah non, en fait j'ai laissé un truc dans le vaisseau, faut que j'aille chercher quelque chose. Et en 3 secondes il est dans le vaisseau, il est reparti et il est revenu et sans problème, je veux dire tout seul. Enfin je veux dire.
C'est l'effet dernière saison de Game of Thrones.
Oui, c'est ça, voilà. C'est les scénaristes de Game of Thrones.
Il a débloqué le déplacement rapide.
Ouais, là on nous propose une suspension d'incrédulité maximale, mais en tant que divertissement popcorn, ça se regarde complètement, c'est sympa, il y a du rythme. Voilà, si vous aimez voir des monstres géants se taper dessus, voilà, c'est pour vous, il n'y a pas de problème.
C'est un film qui sort mercredi, c'est ça? Tu l'as vu en avant-première?
Tout à fait, je l'ai vu au cinéma l'Atlantique de Souston, qui nous a proposé une avant-première.
Très bon cinéma.
Et qui nous a, tout à fait, qui nous a permis de le découvrir voilà, en avance.
Voilà, mais très bien. Bon. Quelqu'un a quelque chose à dire sur Godzilla Kong, le nouvel empire, Maïder?
ils sont tous bouche bée par un tel niveau de cinéma. Mais,
oui, c'est incroyable. Et alors tu disais que le Godzilla et Kong se réunissent contre une troisième menace.
Ouais, en fait, il y a une menace qui est dans le sous-sol.
On peut le dire ou pas?
On le voit dans la bande-annonce, donc je pense qu'il n'y a pas trop de mystère.
Ah bon, ça on peut le dire.
Il y a une espèce de d'autres singes. En fait, parce que donc tout le monde pensait que Kong était le dernier de sa race, et en fait lui il cherche justement sur cette terre creuse, il cherche à trouver d'autres personnes.
Une conguette peut-être.
et du coup non, il va finir par découvrir un autre niveau, effectivement une autre strate qui est dans les sous-sols de la terre creuse, et donc découvrir un peuple de singes. Et donc ce peuple est géré par un espèce de roi tyrannique comme les professeurs de collège. et du coup voilà, il va y avoir bagarre, et lui et donc ce fameux grand roi là de la Terre Creuse va vouloir venir dans notre monde à nous.
D'accord.
Fait pour devenir le grand patron.
Ouais. Donc en gros, quand on va voir ce film, on prend une carte pour se géolocaliser et on pose le cerveau.
Ouais, directement pose le cerveau.
Voilà.
On va dire t'es à tel endroit, d'accord.
Ok.
Pas de problème. Y a pas de. Oui, tout à fait. Je suis à Rio, je suis à Rome, je suis à Paris, je suis à machin. D'accord, pas de problème. Y a pas de, okay. Pas de souci.
Faut être conciliant.
C'est le contrat exagéré des précédents volés. Et pour, alors je l'ai pas vu, j'ai juste vu quelques images, et quand on voit les grosses productions qui nous sont survendues, les Marvel et DC, bah là les effets, je sais pas si tu peux confirmer, mais les effets numériques, ça a vraiment de la gueule, ça fonctionne vraiment bien.
Ah oui, non,
il y a
mais
un côté
ça...
une grande dimension, je crois que c'est Weta qui bosse dessus.
Ah, je sais pas, j'ai pas fait gaffe.
Mais
pas
c'est
pour le générique,
techniquement, par rapport à des grosses productions qui nous vendent du rêve, celle-ci répond au contrat, au moins.
Oui, non, mais les effets spéciaux, je les ai pas trouvés trop mal faits. Il y a quand même certains moments où, voilà, je sais pas, au niveau de l'échelle, au niveau de l'interaction de la créature avec son environnement, il y a des moments où j'ai trouvé que ça pêchait peut-être un petit peu, mais dans l'ensemble, non, c'est clair que c'est super propre, surtout effectivement avec. La pléthore de films de super-héros et tout ça qu'on a vu dernièrement avec des effets spéciaux désastreux, quoi. Donc non, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est un bon divertissement, c'est plutôt bien fait, mais voilà, ça passe le temps, c'est très bien.
Peut-être qu'on change de registre avec Blue Giant.
On change de registre, même s'il y a des effets et pas mal d'audace en termes de mise en scène. Donc film d'animation japonais qui raconte l'histoire d'un passionné de saxophone, donc qui veut voilà, évoluer. Alors il y a un côté un peu comme dans des récits assez classiques japonais où on va dépasser ses limites, on va obtenir plus grand, plus beau, plus fort. On le programme dans le cadre du festival de jazz, et au-delà de l'histoire, bon, qui peut être associée au festival de jazz, c'est qu'il y a une mise en image qui est vraiment audacieuse. Il y a des changements de technique au sein du film, il y a de vraies propositions de mise en scène en animation, on se laisse assez vite embarquer, la musique est top, ça change un petit peu du registre de certains films d'animation japonais, donc c'est vraiment très 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 agréable et très impressionnant. Je trouve, on passe vraiment, je trouve un bon moment en termes d'animation.
Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ce film qu'on n'a pas dit attention, j'y vais.
Je te laisse le faire.
Yuzuru Tashikawa. Ben non, c'est pas si difficile.
Facile.
Voilà. Quelqu'un d'autre a vu Blue Giant?
Non.
Un film qui plairait à Bernard, je pense. Parce que ça parle de jazz.
On parle de jazz.
C'est la vie de Dai Miyamoto. Ah, oui. Change lorsqu'il découvre le jazz. Voilà. On continue avec la chronique de Téhéran, alors de Ali Asghari et Ali Reza Khatami. Voilà, donc c'est un drame, une comédie dramatique.
Oui, c'est tout ça à la fois, voilà. Puisque c'est un film à sketch. C'est pas la chronique, c'est chronique au pluriel, chronique de Téhéran.
Chronicus.
Juste chronique. D'accord. De Téhéran.
Chronicus quand même. Hein. Alors, un homme déclare la naissance de son fils, une mère habille sa fille pour la rentrée. une élève est convoquée par la directrice, 9 visages de la vie quotidienne à Téhéran. Donc c'est des sketchs en fait.
C'est absolument, absolument. Et toujours sous la même forme, c'est-à-dire que c'est un plan fixe d'une personne face à une autre personne. Mm-hmm. Et le,
donc la caméra fait, est une personne.
Un interlocuteur est face, par exemple, la personne qui vient déclarer son fils. Mm-hmm. En fait, on ne voit que la personne qui vient déclarer son fils qui a affaire au guichetier.
D'accord. Donc et la caméra, c'est le guichetier.
La caméra, c'est le guichetier. Et c'est... moi, j'adore. C'est très court, hein. C'est,
ouais. Ça dure 1h17.
Et ça fait 1h, je sais pas.
1h17.
Ouais. Mais c'est une tranche de vie de... Je sais pas comment on les appelle.
C'est des petites tranches de vie.
Les habitants de Téhéran, bref. Et sans dit long quand même sur, sur cette dictature, en fait, sur le... qui n'en est peut-être pas forcément une, je sais pas.
Officiellement.
Mais c'est réjouissant. On pleure, on rit, c'est très bien fait. Ouais. Ouais, moi j'ai adoré.
Ça appuie sur des points sensibles, mais avec humour.
Ouais.
Un peu jaune des fois. Hein.
Hervé, tu l'as vu aussi?
Oui. Je te rejoins parfaitement. La mise en scène est très simple, sans être simpliste. Mais voilà, ces tranches de vie-là, ça fonctionne très bien. On rit et parfois l'absurde peut nous faire rire. Et à un moment, quand on se dit, bah oui, mais c'est ce qu'ils vivent, on sourit différemment. Oui. Voilà. Mais ça fonctionne très bien. Ouais, je trouve.
On rit, mais il y a des moments, il y a des passages qui sont assez malaisants. Mais ouais. C'est à voir. C'est franchement. Ouais.
En plus, une
caméra qui ne bouge pas, tout passe par les acteurs et par le texte, et c'est vraiment c'est à voir.
En plus, ça dure 1h17, c'est des petits sketchs, donc c'est vrai que ça doit être très agréable à voir.
Oui. Voilà.
Nous continuerons après la petite pause musicale avec Marc. Marc et ses horreurs.
Et les monstres.
Et ses monstres.
Marc et les monstres.
Et ses trucs qui dégoulinent, qui ont des grandes dents et tout ça et tout ça. Petite pause musicale.
Côte Sud FM. Tonight, I can take the heat, baby. Best belief, that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby. No chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me.
Dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I want air.
écran, c'est sur Côte Sud FM.
Et nous continuons avec Marc, avec un film qui s'appelle Imaginary. Alors le titre est plutôt joli, poétique. C'est un film de Jeff Wardlow.
Ouais.
Et 1h44, et épouvante, horreur, thriller. Bon, voilà, évidemment, c'est Marc. Lorsque Jessica retourne dans sa maison d'enfance avec sa famille, sa plus jeune belle-fille, Alice, développe un attachement étrange pour un ours en peluche qu'elle a trouvé dans le sous-sol et nommé Chauncey. Tout commence par des jeux innocents, mais le comportement d'Alice devient de plus en plus inquiétant. Jessica comprend alors que Chauncey et bien plus qu'un simple jouet.
Tout à fait.
C'est vendu, c'est super vendu. Ouais.
Ah bah ouais,
là, on ça, y est. On
l'art,
y est.
L'art du pitch. Hein. non, c'est effectivement Imaginary. On va y parler d'amis imaginaires. Et en l'occurrence, vous attendez pas un film d'horreur. Pour moi, c'était plus un conte fantastique avec quelques éléments horrifiques. Mm-hmm. Mais bon, clairement, vous n'aurez pas peur. Hein. Le design de la créature qui a plusieurs visages au final, mais ça vous le découvrez à la fin. Le design des créatures est vraiment cool et on nous amène dans un univers qui est assez original. Donc bon, clairement le film se fait descendre dans la communauté de l'horreur parce qu'effectivement, comme je vous le disais, c'est pas vraiment un film d'horreur. Donc si vous y allez pour ça, déjà forcément vous allez être déçu. Par contre, en tant que conte fantastique, il n'y a pas un rythme dingue, mais j'ai trouvé que c'était intéressant, et notamment au niveau de la proposition, au niveau du concept en fait, qui est développé, de ces histoires d'aide d'amis imaginaires et de l'univers et du monde en fait, des amis imaginaires dans lequel on va nous emmener. Donc, c'est une proposition, c'est plutôt sympa, mais voilà, pas d'horreur par ici.
Ah oui. Pourtant, il y avait tout, la famille qui revient, la maison d'enfance.
Ouais, mais ça pourrait complètement. Mais Blumhouse, bon, ils produisent beaucoup de films. Hein. Là, on est clairement sur un film plutôt pour les jeunes spectateurs.
D'accord. Pour qu'ils aient envie d'aller voir des trucs horribles.
Non, mais c'est pas ça. Mais Blumhouse a compris que en fait, ceux qui vont voir les films d'horreur au cinéma, de manière générale, c'est les ados, quoi. Donc, tu t'adaptes et tu fais des films d'horreur plutôt adaptés aux adolescents. Bon, là, clairement. C'est light, mais bon, c'est les mêmes qui nous ont proposé Night Swim, dans lequel il se passait rien. Et avant ça, Five Nights at Freddy's. Oui, je continue à tirer sur ce film.
Mais vas-y.
Jouer au jeu plutôt.
Voilà, jouer au jeu. Ouais. Non, mais voilà, Blumhouse est effectivement capable du pire comme du meilleur. Ils produisent beaucoup de choses. Là, pour le coup, on est dans la bonne moyenne, je trouve.
Là, on est light, mais c'est bien.
Voilà.
D'accord.
C'est pas vraiment de l'horreur, okay. Mais c'est sympa.
Tu aimes, Louise, les films alors, d'horreur un peu light hein, où ça fait un peu peur?
Moi, je suis vraiment pas un film d'horreur et tout ça, là. Par contre, ma cousine, elle peut passer des heures à regarder des films horribles. Mais je sais pas comment elle fait. Hein. Mais moi, je peux pas parce que après, je dors mal la nuit.
Donc... Bah oui, t'as raison. Moi, c'est vrai que c'est pas non plus trop mon...
Ma femme se pose la question aussi. des fois, elle a le malheur de me dire « Mets ce que tu veux à la télé ». Ok. Ah, sûr. Et je lui demande toujours, t'es sûr? Elle me dit oui, je vais me mettre sur mon ordinateur. Voilà, l'histoire a voulu que la dernière fois, elle a relevé les yeux au pire moment du film. Je regardais un film gore en plus, donc elle a vu un truc innommable. Et ça l'a un petit peu traumatisé.
Voilà. D'accord, bon.
Un petit peu, juste. Un petit peu.
On va continuer assez rapidement, messieurs, dames, s'il vous plaît, avec They Shot the Piano Player, avec Hervé, qui va nous parler de ce film. C'est un film de Fernando Truella, Javier Mariscal, film musical avec... Non, c'est pas Elena Baumgartner encore.
Non, c'est pas
Non. non, mais c'est qu'il doit y avoir une erreur. Un journaliste de musique new-yorkais mène l'enquête sur la disparition à la veille du coup d'État en Argentine de Francisco Tenorio Jr., pianiste brésilien virtuose. Hervé.
C'est très stimulant, c'est visuellement, musicalement, donc on reste sur le jazz encore une fois, même c'est plutôt bossa nova là, un petit peu quand même.
C'est bien.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc pour aller très vite, c'est ce qu'on pourrait appeler la veine du documentaire d'animation, c'est quand l'animation sert à compléter l'image manquante, on n'a pas d'image de ce qui est arrivé à ce musicien, on a des témoignages, donc on les enregistre et on enregistre les voix et on met des images animées par-dessus. C'est très réussi. Alors voilà, pour ceux qui connaissent Valse avec Bachir, on est dans, ouais, dans la même logique d'une certaine manière. Là, avec un travail sur les couleurs associé à la musique, donc c'est très, très chaleureux, donc à recommander vivement.
Très bien.
Ah, c'est une histoire vraie ?
Oui.
Quelqu'un d'autre a vu They Shot the Piano Player ? Bon, encore un film que Bernard doit aller voir. La vie de ma mère, c'est un film de Julien Carpentier avec Agnès Jaoui, William Lebguil, hein, et Salif Cissé. Pierre, mais c'est toi Pierre ? Ah non, 33 ans, pardon. Fleuriste à succès.
Allez, allez, une c'est cadeau. Non,
c'est cadeau. Mais Pierre est beaucoup plus jeune, c'est ce que je voulais dire.
D'esprit, d'esprit.
Pierre, 33 ans, fleuriste à succès, voit sa vie basculer lorsque sa mère, Judith, fantasque et excessive, débarque dans sa vie après 2 ans sans se voir. Alors Franck, qu'as-tu pas en pensé de ce film avec Agnès Jaoui quand même ?
C'est mignon.
C'est mignon ?
C'est mignon. Bon. C'est... Oui, le duo fonctionne très bien entre Bakri... Jaoui, c'est l'absus révélateur, bien sûr. Ah, là, là. Voilà. entre Jaoui et Lebguil. Mais c'est ça peut se voir à la télé sur France 3 quoi.
Ouais. C'est dur. Non. C'est dur, mais c'est vrai.
C'est ouais, il y a des il y a une scène qui est normalement censée une scène d'émotion en chanson comme il y avait dans Le règne animal avec Pierre Bachelet. Là, c'est avec Julien Clerc.
C'est pas pareil.
Et ça le fait. Ça finit bien.
On peut y aller pour Agnès Jaoui.
Qui donne sa chance. Voilà. Effectivement, c'est pareil, c'est un premier film. Mais tout le monde ne réussit pas ses premiers films, contrairement à.
Mais c'est pas raté.
C'est pas raté, mais c'est ça. Voilà. Ça a pas beaucoup d'intérêt. Voilà.
Hervé, le même avis.
Tout pareil.
Voilà. Quelqu'un d'autre l'a vu ce film ?
Non.
Non, Marc, tu ne l'as pas vu, non, peut-être.
Non, pas encore.
Non, hein, non.
pas le temps. Hein,
d'accord. Ah, mince. Comme un fils de Nicolas Boukrieff avec Vincent Lindon, Carole Rocher, Stéphane, Virgile Stoïka. C'est comme ça qu'on dit ? C'est pas comme ça qu'on dit ? Si, d'accord. Jacques est un professeur qui a perdu sa vocation. Ah, encore une histoire de prof. Ouais. Témoin d'une agression dans une épicerie, il permet l'arrestation de l'un des voleurs, Victor, 14 ans. Mais en découvrant le sort de ce gamin, Jacques va tout mettre en œuvre pour lui venir en aide. Je crois que c'est Maïder qui a vu ce film.
Oui, je l'ai vu. Mais alors, encore un film social avec Vincent Lindon.
Regarde pas,
non,
parle
je
dans
le micro.
Le micro. Voilà.
Donc, je disais encore un film social avec Vincent Lindon et je suis bien embêtée parce que j'aime beaucoup Vincent Lindon.
Oui.
Et là, ça l'a pas trop fait. Mmh. Voilà, donc ça partait bien, mais je sais pas, un rythme très très lent. Et en même temps, c'est filmé, les gros plans, c'est filmé caméra à l'épaule. Mmh. Ça bouge tout le temps, on est là. Je sais pas, il y a un décalage entre le rythme du film et cette caméra qui bouge tout le temps. Ça m'a un peu gênée. Et je sais pas, scénario cousu de fil blanc. On sait très bien ce qui va se passer. J'ai pas du tout été portée par le film. Voilà, Vincent Lindon fait le job, hein, évidemment. Le jeune joue très bien aussi.
Ouais.
Voilà. Mention aussi à Carole Rocher, en responsable d'une association. J'aime beaucoup cette actrice. Et là, voilà. Mais bon, je.
Sans est-ce plus. Qu'on en a pas est-ce qu'on adore Vincent Lindon, mais est-ce que c'est pas un peu le film de trop dans alors, le social
voilà, c'est
et
ce
dans
que
le,
je me
voilà.
suis dit. Je me suis dit encore un film avec.
Parce
lui,
qu'il sait faire, on le sait.
Ça, il sait faire. Voilà. Mais. C'était peut-être effectivement le film de trop pour moi.
Hervé, voilà. Tu l'as vu ?
Oui, ouais. tout pareil. C'est vrai que Vincent Lindon le porte tant bien que mal. Le film se sert beaucoup de Vincent Lindon. Et, alors ça devrait être un peu l'inverse d'une certaine manière. Mais non, voilà. Mention pour les acteurs, rien à redire. Mais c'est vrai que sur le rythme, sur l'histoire qu'on connaît un petit peu, après, il y a une dimension un peu positive, que c'est bien d'en avoir de temps en temps. Mais voilà, ça dépasse pas son sujet, en fait. Comme souvent sur ces films-là, ça ne dépasse pas son sujet, malheureusement.
Maïdé, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, je voulais savoir si toi aussi, tu avais été gênée par ce mouvement de caméra.
C'est un peu artificiel.
C'est ça.
Oui, c'est pour ça que je te rejoins vraiment je te rejoins parfaitement sur ce que tu dis. Le mouvement de la mise en scène tente d'aller à l'encontre d'un rythme qui a du mal à s'affirmer, mais ça suffit pas. C'est très artificiel.
Très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 2 films... Marc, tu vas nous parler de Sleep de Jason Yu. Je ne dis pas le nom des comédiens parce qu'on n'a pas de temps.
Parce que c'est un film coréen et que on n'a pas envie de se fâcher.
Voilà.
Non, très très bon film effectivement où on y retrouve un couple en fait avec une femme qui est enceinte et donc le monsieur va d'un coup développer des problèmes de somnambulisme. Et on se demande si c'est de cause naturelle ou peut-être fantastique. En l'occurrence, il va faire des choses assez dangereuses quand il est en crise de somnambulisme. Et donc, on va suivre d'un côté les recherches. Alors, monsieur est plutôt du côté effectivement médical et donc va consulter des médecins pour essayer de trouver des solutions. Et de l'autre côté, madame commence à croire que peut-être des éléments fantastiques seraient dans l'équation. En l'occurrence, c'est quelque chose de très minimaliste. Il n'y a pas de d'effets spéciaux, de trucs de fou furieux, mais en tout cas le film fonctionne très bien. C'est assez lent au niveau du rythme, mais la tension est très bien gérée. Et donc très très bon film. D'ailleurs, à noter que c'était le dernier film de l'acteur masculin qui est une star en Corée. Donc voilà, donc une grosse performance.
Son dernier film, parce qu'il est
décédé.
Ah voilà, donc, là c'est vraiment son dernier film.
Parce qu'il est décédé, et donc effectivement, que ce soit monsieur ou madame, grosse performance d'acteur pour les deux, très bon film.
Super. Finit...
Moi je confirme.
Ah, tu l'as vu le film?
Ah ouais, c'est génial.
Ah oui,
il y a une tension qui monte pendant tout le film, et les dernières scènes sont terrifiantes.
D'accord. On finit avec Hervé, La jeune fille et les paysans, de Hugh Welshman. Pareil, pas le temps de dire les noms.
On va aller très vite. C'est par la même équipe qui avait réalisé La Passion Van Gogh, cette histoire qui revenait sur la vie de Van Gogh en animation, en peinture, dans le style de Van Gogh et sous forme de rotoscopie, c'est-à-dire on filme les acteurs et ensuite on dessine par-dessus. Là, on est sur l'adaptation d'un roman très connu, donc Les Paysans. Là, ça dépend encore. Encore une fois, je suis très frustré parce que techniquement, il y a un boulot de taré. C'est très très beau, c'est beaucoup de travail, on le sent, on le voit, mais ça raconte rien. Ou ça raconte pas grand chose. Donc c'est vraiment, on met sur l'esthétique, sur la direction artistique, mais on n'est pas fichu de générer une meilleure histoire. C'est lourd, c'est pâteau, c'est voilà. Donc c'est la technique plutôt que la narration. Je trouve ça un peu dommage.
Démonstration technique en fait.
C'est ça. Ouais.
Les plateformes, des conseils rapides sur les plateformes. Je vois qu'Hervé.
Oui.
Le problème à trois corps.
Le problème à trois corps que je conseille à deux tiers, on va dire. Ouais. Alors, faut être accroché. C'est bien de temps en temps que Netflix propose pas une production où justement on fait que poser le cerveau, on regarde ça bêtement parce qu'il y a pas mieux à se mettre sous la dent. Non, il faut suivre un petit peu. C'est plutôt une bonne adaptation d'un roman qui était déjà très très impressionnant en termes de thématique, très intéressant sur le déterminisme, la religion, la secte, les rencontres du troisième type d'une certaine manière. Donc ouais, plutôt réussi. Ils ont mis les moyens.
C'est l'équipe de Game of Thrones.
C'était l'équipe de Game of Thrones, voilà. Donc ça sera sûrement rushé dans la dernière saison. On ne sait pas.
Voilà,
on verra.
Voilà, peut-être mauvaise dernière saison.
Peut-être qu'on n'y verra rien.
Toujours Hervé qui a vu The Ones Who Live.
Oui, c'est un spin-off de Walking Dead. Walking Dead que je défends malgré tout parce que je trouve ça très intéressant, mais dont les spin-offs commencent à me fatiguer. Mmh. C'est fini, Walking Dead. Il faut arrêter. Laissez-le tranquille. Laissez-les mourir enfin, ces zombies. Laissez-les. C'était prometteur parce que justement, c'était Rick et Michonne qui sont deux personnages quand même emblématique de la série. Ils tentent vraiment de ressusciter. C'était plutôt bien parti dans le premier, deuxième épisode et puis après ça tourne à vide. Voilà, dommage.
Franck, tu as quelque chose à nous conseiller sur les plateformes?
Non, moi je n'ai pas de plateforme, mais
pas sur les plateformes,
je
à
dirais,
la télé.
J'ai vu It's a Sin.
Yes. Ah oui,
voilà, série anglaise sur l'arrivée du sida donc en début des années 80 à Londres. C'est très bien foutu quoi. Ouais. C'est l'insouciance parce qu'en fait c'était une maladie de gays mais new-yorkais, donc les gays londoniens étaient persuadés que c'était eux ils risquent rien. Oui. Et mais ils sont très vite rattrapés par la maladie et c'est plutôt très bien fait et il y a un personnage féminin central qui est fantastique.
Maider,
voilà. Oui, pareil, je l'ai vue là. Alors elle était passée il y a 3 ans sur Canal, elle est venue là sur France TV. Une série chorale, on s'attache au personnage, il faut pas trop s'y attacher parce que voilà.
C'est comme dans Game of Thrones.
Une bande son des années 80 aussi qui est assez réjouissante. Un très très bon moment, 5 épisodes de 45 minutes, on les avale comme ça et c'est très très chouette. Ouais.
Pierre, un conseil rapide?
The Gentleman sur Netflix, une mini-série qui plonge un successeur d'un duc, donc un noble, dans un trafic de drogue avec un humour très british, jubilatoire. The Gentleman sur Netflix.
Vraiment
très bien. Moi, moi, qu'est-ce que je peux vous proposer? Et bah, pour le coup, j'aurais...
Ne te force pas.
Non, bah non. Non, la série Creepshow, voilà, simple et efficace. La série Creepshow, anthologie d'horreur, plusieurs histoires par épisode. À chaque fois, il y a des réels différents, des histoires différentes. Un style pur comics. Voilà, donc c'est fun, c'est, ça se regarde bien. Et en plus, il y a des caméos et des guests, des acteurs... assez extraordinaire.
Attends, c'est le Creepshow des années 80 qui
c'est
ressort.
C'est la série adaptée du Creepshow qui a été fait en film à la base, ouais, par Romero et King. Ouais.
Ok,
tout à fait.
On finit avec Louise et moi-même. On voulait juste vous parler très rapidement. C'est dommage, on n'a pas assez de temps. De Zipposophale de Cédric Carlier. C'est un court-métrage et pas un petit court-métrage parce que Hervé sinon va nous frapper. C'est un court-métrage donc de Cédric Carlier il a pas gagné. Pour l'instant, il a été dans les 50 premiers
finalistes.
Voilà. Louise, tu l'as vu. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement deux mots? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, je m'attendais pas au début à ce que ce soit aussi court.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit petit.
Voilà, mais franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout que moi, la semaine dernière, j'ai parlé avec Émilie Cazenave.
Oui, Émilie Cazenave, c'est ça.
On a eu une petite discussion au restaurant comme ça et je... Je ne pensais pas du tout que c'était elle qui jouait là-dedans.
Donc il faut dire que c'est tourné à Vieux-Pouco, que Émilie Cazenave effectivement est un rôle de ce court-métrage. Émilie Cazenave, pour la situer, alors vous allez me dire que c'est débile ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Il y a eu une pub pour, je crois, Intermarché, peu importe. Elle est dans cette pub, elle conduit... sa voiture et elle est devant un...
C'est celle qui conduit la Golf, là?
Oui, et ah, elle est devant un camion qui roule pas vite.
Dans cette pub, là, je l'ai repéré.
Il se retrouve à la station essence, elle ne parle pas, elle a un regard d'une seconde et elle est extraordinaire. Alors, pour être extraordinaire et éblouissante dans une pub, il faut être sacrément douée. Donc voilà, on voulait faire un petit coucou à Cédric Carlier et à cette formidable actrice et puis aussi aux autres. Hein, voilà. Ouais. Eh bien voilà, on n'a pas du tout eu le temps de parler de tout, mais c'est pas grave, ce qu'on a dit, c'était très intéressant. Donc voilà, c'était votre émission Contre-écran. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous tous autour de cette table. C'était Sandrine pour remplacer Eric. Sachez que la magie du cinéma ne s'éteint jamais et nous sommes impatients de vous retrouver pour de nouvelles aventures le mois prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Et Eric dirait... Je vous aime.
À Tyros, j'écoute Code Sud FM 90.3.
Till your heart is breaking.